Chapitre 14. Quand Sophie avait presque 3 ans, elle s'est enfermée dans le coffre de ma voiture de patrouille. C'est arrivé avant ma première rencontre avec Brian, donc je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. À cette époque-là, nous vivions sur le même palier que Madame Ennis. C'était la fin de l'automne, la saison où le soleil faiblit plus tôt et où les nuits fraîchissent. Sophie et moi étions sortis, nous étions allés au parc. C'était maintenant l'heure du dîner et je m'activais dans la cuisine en supposant qu'elle était dans le séjour où Georges, le petit curieux, passait à la télé. J'avais préparé une petite salade, ça faisait partie de mon programme pour introduire plus de légumes dans l'alimentation de ma fille. Ensuite, j'avais grillé 2 blancs de poulet et réchauffé des frites au four. C'était mon compromis. Sophie pouvait avoir ses frites adorées du moment qu'elle mangeait d'abord un peu de salade. L'opération m'avait pris 20-25 minutes, mais 25 minutes bien remplies. J'étais concentrée, et je ne prêtais apparemment pas assez d'attention à ma minette, parce que quand je suis retournée dans le séjour pour annoncer que le dîner était prêt, ma fille avait disparu. Je n'ai pas paniqué tout de suite. J'aimerais pouvoir dire que c'est parce que j'étais une policière avertie. Mais en fait, c'était plutôt parce que j'étais la mère de Sophie. Sophie a commencé à courir dès l'âge de 13 mois et n'a pas ralenti depuis. C'était le genre d'enfant qui disparaît dans les magasins, part comme une flèche des balançoires dans les parcs et file en ligne droite au milieu d'un océan de jambes dans les centres commerciaux bondés, sans se préoccuper de savoir si je la suivais ou non. Au cours des 6 mois précédents, j'avais déjà perdu Sophie à plusieurs reprises. Mais nous nous étions toujours retrouvés en quelques minutes. J'ai commencé par le plus simple. Un rapide tour de notre petite 2 pièces, je l'ai appelée, et pour faire bonne mesure, j'ai regardé dans les placards de la salle de bain les 2 penderies sous le lit. Elle n'était pas dans l'appartement. J'ai ouvert la porte d'entrée dont, de fait, j'avais oublié de fermer le verrou, ce qui signifiait que tout l'immeuble devenait terrain de jeu. J'ai traversé le couloir en me maudissant intérieurement avec la frustration croissante d'un parent célibataire débordé qui doit tout gérer en même temps, qu'il soit ou non à la hauteur de sa tâche. J'ai frappé chez Madame Ennis. Non, Sophie n'était pas là, mais elle était certaine de l'avoir vue jouer dehors à l'instant. Je suis sortie. Le soleil était couché. Les réverbères éclairaient la rue, de même que les spots à l'entrée de l'immeuble. Dans une ville comme Boston, il ne fait jamais réellement nuit. Je me suis raccrochée à cette idée pendant que je faisais le tour du petit immeuble de briques en appelant ma fille. Lorsqu'aucune enfant hilare n'est arrivée au coin en courant, lorsqu'aucun petit rire aigu n'a éclaté dans un buisson, j'ai commencé à me faire plus de mauvais sang. Je frissonnais. Il faisait froid, je n'avais pas de manteau, et comme je me souvenais avoir vu la polaire framboise de Sophie pendue à côté de la porte de l'appartement, elle non plus. Mon pouls s'est accéléré. J'ai pris une grande inspiration pour lutter contre l'effroi qui sourdait en moi. Pendant toute ma grossesse, j'avais vécu dans la peur. Je ne sentais pas ce miracle de la vie qui grandissait dans mon corps. Au lieu de ça, je voyais la photo de mon petit frère mort, nouveau-né d'un blanc de marbre avec des lèvres rouges vifs. Quand le travail a commencé, j'ai cru que la terreur qui me saisissait à la gorge allait m'empêcher de respirer. J'allais échouer, mon bébé allait mourir, il n'y avait pas d'espoir, pas d'espoir, pas d'espoir. Mais Sophie est arrivée. Parfaite, rouge marbrée, tonitruante, chaude, glissante et belle à en pleurer, tandis que je la serrais contre ma poitrine. Ma fille était forte et intrépide, impulsive. Avec une enfant comme Sophie, on ne panique pas, on raisonne en stratège. Qu'avait-elle pu faire ? Je suis rentrée dans l'immeuble et j'ai fait un rapide porte-à-porte. La plupart des voisins n'étaient pas encore rentrés du travail, les rares qui m'ont ouvert n'avaient pas vu Sophie. Je marchais vite maintenant d'un pas déterminé. Sophie aimait le parc, et elle aurait pu s'y rendre, sauf que nous avions passé l'après-midi sur les balançoires et qu'elle-même était prête à rentrer à la fin. Elle aimait bien l'épicerie du coin et était littéralement fascinée par la laverie automatique. Elle adorait regarder les vêtements tourner. J'ai décidé de remonter. Encore un tour de l'appartement pour voir si quelque chose d'autre aurait disparu, un jouet particulier, son sac préféré. Ensuite, j'attraperai mes clés de voiture au vol et je ferai le tour du quartier. C'est en arrivant à la porte que j'ai découvert ce qu'elle avait pris. Les clés de ma voiture de patrouille n'étaient plus dans le vide-poche. Cette fois-ci, je suis redescendue dans la rue comme une dératée. Les jeunes enfants et les voitures de patrouille ne font pas bon ménage. Oubliez la radio, le gyrophare et les sirènes du tableau de bord. J'avais un fusil de chasse dans le coffre. J'ai couru jusqu'à la fenêtre passager, observée depuis le trottoir. Le véhicule semblait vide. J'ai essayé de l'ouvrir, mais c'était fermé à clé. J'ai fait le tour plus prudemment, le cœur battant, le souffle court, en vérifiant chaque portière, chaque fenêtre. Pas de mouvement. Fermé, fermé, fermé. Pourtant, elle avait pris les clés. Raisonner comme Sophie. Sur quel bouton de la télécommande avait-elle pu appuyer? Qu'avait-elle pu faire? C'est là que je l'ai entendue. Des coups sourds dans le coffre. Elle était à l'intérieur, elle martelait le couvercle. Sophie? Les coups ont cessé.
Maman?
Oui, Sophie. Maman est là. Chérie! Et je dis d'une voix que j'aurais voulu moins stridente. Tu vas bien?
Maman?
Répondit calmement mon enfant depuis le coffre fermé à clé.
Coincée, maman. Coincée.
J'ai fermé les yeux, laissé s'échapper le souffle que je retenais. Sophie! Chérie, ai-je dit avec autant d'autorité que possible. Il faut que tu écoutes maman. Ne touche à rien.
Oui.
Tu as encore les clés?
Oui.
Elles sont dans ta main?
Pas touchées.
Si, tu peux toucher les clés, chérie. Tiens les clés, mais ne touche rien d'autre.
Coincée, maman. Coincée.
Je comprends, chérie. Tu voudrais sortir?
Oui.
D'accord. Tiens les clés. Trouve un bouton avec ton pouce, appuie dessus. J'ai entendu un déclic au moment où Sophie faisait ce que je lui disais. J'ai couru à la portière avant pour ouvrir. Naturellement, elle avait appuyé sur le bouton de fermeture. Sophie, chérie, le bouton d'à côté, appuie sur celui-là. Nouveau déclic, et la portière avant s'est déverrouillée. J'ai poussé un nouveau soupir, ouvert la portière, trouvé le loquet du coffre. Quelques secondes plus tard, j'étais au-dessus de ma fille, recroquevillée comme une flaque rose entre le coffre métallique qui contenait mon fusil de secours et un sac noir rempli de munitions et autres matériels de police. « Tu vas bien ?» Ma fille a bâillé, tendu les bras vers moi.
« Faim ?»
Je l'ai sortie du coffre, posée sur le trottoir où elle n'a pas tardé à frissonner de froid.
« Maman !»
Elle commençait à geindre. Je l'ai interrompue fermement, sentant la colère poindre maintenant que mon enfant était hors de danger. « Sophie, écoute-moi. Ça, ai-je dit en lui prenant les clés pour les secouer devant elle, ce n'est pas à toi. Jamais tu ne touches ces clés. C'est compris? Pas touche. »«
Pas touche. »
a-t-elle gazouillé en faisant sa bouille de bébé qui va pleurer. Elle semblait prendre conscience de la gravité de sa bêtise. La mine allongée, elle fixait le trottoir. « Tu ne sors pas de l'appartement sans me le dire. » « Regarde-moi dans les yeux. Répète. Il faut le dire à maman. » Elle m'a regardée avec ses yeux bleus limpides.
« Pas sortir. Dire à maman. »
a-t-elle murmuré. Les remontrances faites, j'ai cédé aux 10 minutes de terreur que je venais de vivre et je l'ai reprise dans mes bras pour la serrer très fort. « Il ne faut pas faire des peurs comme ça à maman. » ai-je murmuré dans ses cheveux. « Sérieusement, Sophie, je t'aime. Je ne veux jamais te perdre. Tu es ma Sophie. » En réponse, ses petits doigts se sont enfoncés dans mes épaules pour se cramponner à moi. Au bout d'un moment, je l'ai reposé. J'aurais dû mettre le verrou, me suis-je redit. Et il allait falloir que je pose mes clés au-dessus d'un placard ou peut-être que je les range dans le coffre-fort avec le pistolet. Encore des choses à ne pas oublier. Encore de l'organisation dans une vie déjà surmenée. Mes yeux me piquaient un peu. Mais je n'ai pas pleuré. C'était ma Sophie. Et je l'aimais. « Tu n'as pas eu peur ?» lui ai-je demandé en la prenant par la main pour la ramener vers l'appartement et notre dîner qui refroidissait.
« Non, maman. »
« Même pas quand tu étais enfermée dans le noir ?»«
Non, maman. »
« Vraiment ?»« Tu es drôlement courageuse, Sophie Léonie. » Elle m'a serré la main.
« Maman, viens. »
a-t-elle dit simplement.
« Je sais. Maman vient me chercher. »
Coincée sur un lit d'hôpital au milieu de moniteurs qui bipaient, dans la rumeur constante d'une clinique animée, je me suis souvenue de ce soir-là. Sophie était forte. Sophie était courageuse. Contrairement à ce que j'avais fait croire aux enquêteurs, Ma fille n'avait pas peur du noir. Je voulais qu'ils aient peur pour elle, je voulais qu'ils souffrent pour elle, n'importe quoi, pour qu'ils se donnent un peu plus de mal, qu'ils la ramènent un peu plus vite à la maison. Qu'ils me croient ou non, j'avais besoin de Bobby et Didi. Ma fille avait besoin d'eux, surtout que pour l'instant sa super-héroïne de mère ne pouvait pas se lever sans vomir. Difficile à admettre, mais les faits étaient là. Ma fille était en danger, perdue dans le noir, et je ne pouvais strictement rien y faire. 1 h du matin. Je serrais le poing autour du bouton bleu. Je le tenais bien fort. Sois courageuse, Sophie. Je murmurais dans la chambre plongée dans la pénombre. Je suppliais mon corps de guérir plus vite. Maman vient. Maman viendra toujours te chercher. Ensuite, je me suis obligée à passer en revue les 36 dernières heures. J'ai contemplé toute la tragédie des jours passés. Puis j'ai considéré tous les dangers des jours à venir. Surveiller les coins. Anticiper les obstacles. Prendre un coup d'avance. L'autopsie de Brian avait été avancée à la première heure le lendemain matin. Une victoire à la Pyrrhus. J'avais obtenu ce que je voulais, et ce faisant, je m'étais certainement passé la corde au cou. Mais j'avais aussi accéléré les opérations. J'avais un peu repris le contrôle de la situation. 9 h, me suis-je dit. 9 h, pour me remettre sur pied et ensuite, prête ou non, la partie commencerait. J'ai pensé à Brian, agonisant sur le sol de la cuisine. J'ai pensé à Sophie, enlevée dans notre propre maison. Et je me suis accordée un dernier instant pour pleurer mon mari. Parce que, à une époque, nous avions été heureux. À une époque, nous avions formé une famille.